Chapitre 5. Christophe avait fini par se faire des ennemis de ses protecteurs du grand journal. C'était facile à prévoir. Christophe avait reçu du ciel cette vertu célébrée par Goethe, la non-reconnaissance. La répugnance à se montrer reconnaissant, écrivait Goethe ironiquement, est rare et ne se manifeste que chez des hommes remarquables qui, sortis des classes les plus pauvres, ont été à chaque pas forcés d'accepter des secours empoisonnés par la grossièreté du bienfaiteur. Christophe ne pensait pas qu'il fût obligé de s'avilir pour un service rendu, ni, ce qui était le même pour lui, d'abdiquer sa liberté. Il ne prêtait pas ses bienfaits à tant pour cent, il les donnait. Ses bienfaiteurs l'entendaient un peu différemment. Ils furent choqués dans le sentiment moral très élevé qu'ils avaient de devoir de leurs débiteurs, que Christophe refusa d'écrire la musique d'un hymne stupide pour une fête réclame organisée par le journal. Ils lui firent sentir l'inconvenance de sa conduite. Christophe les envoya promener. Il acheva de les exaspérer par le démenti brutal qu'il infligea, peu après, à des assertions que le journal lui avait prêtées. Alors commença une campagne contre lui. On usa de toutes armes. On ressortit une fois de plus de l'arsenal aux chicanes, la vieille machine de guerre qui a servi tour à tour à tous les impuissants contre tous les créateurs et qui n'a jamais tué personne, mais dont l'effet est immanquable sur les imbéciles. On l'inculpa de plagiat. On alla découper dans son œuvre et dans celle de collègues obscurs des passages artificieusement choisis et maquillés, et l'on prouva qu'il avait volé ses inspirations à d'autres. On l'accusa d'avoir voulu étouffer de jeunes artistes. Encore s'il n'avait eu affaire qu'à ceux dont le métier est d'aboyer, à ces critiques nabots qui grimpent sur les épaules du grand homme et qui crient « Je suis plus grand que toi ». Mais non, les hommes de talent s'attaquent entre eux. Chacun cherche à se rendre insupportable à ses confrères. Et pourtant, comme dit l'autre, le monde est assez vaste pour que chacun puisse travailler en paix. Et chacun a déjà dans son propre talent un ennemi assez rude. Il se trouva en Allemagne des artistes jaloux pour fournir des armes à ses ennemis, au besoin pour en inventer. Il s'en trouva en France. Les nationalistes de la presse musicale, dont plusieurs étaient des étrangers, lui jetèrent sa race à la tête comme une insulte. Le succès de Christophe avait beaucoup grandi, et la mode s'en mêlant, on concevait qu'il irrita, par ses exagérations, même des hommes sans parti pris, à plus forte raison les autres. Christophe avait maintenant, dans le public des concerts, parmi les gens du monde et les écrivains des jeunes revues, d'enthousiastes partisans qui, quoi qu'il fît, s'extasiaient, déclarant volontiers que la musique n'existait pas avant lui. Certains expliquaient ses œuvres et y trouvaient les intentions philosophiques dont il était ébahi. D'autres y voyaient une révolution musicale, l'assaut donné aux traditions que Christophe respectait. Ce n'eût servi de rien qu'il protestât. Ils lui eussent démontré qu'il ne savait pas ce qu'il avait écrit. Il s'admirait en l'admirant. Aussi, la campagne contre Christophe rencontra-t-elle de vives sympathies parmi ses confrères, qu'exaspérait ce battage dont il était innocent. Il n'avait pas besoin de ses raisons pour n'aimer pas sa musique. La plupart éprouvaient à son égard l'irritation naturelle de celui qui n'a point d'idées et les exprime sans peine, selon les formules apprises, contre celui qui est bourré d'idées et s'en sert avec quelque gaucherie, selon le désordre apparent de sa fantaisie créatrice. Que de fois le reproche de ne pas savoir écrire lui avait été lancé par des scribes pour qui le style consistait en des recettes de cénacle, des moules de cuisine où la pensée était jetée. Les meilleurs amis de Christophe, qui ne cherchaient pas à le comprendre, et qui seuls le comprenaient parce qu'ils l'aimaient, simplement, pour le bien qu'il leur faisait, étaient des auditeurs obscurs qui n'avaient pas voix au chapitre. L'unique qui eût pu vigoureusement répondre au nom de Christophe, Olivier, était séparé de lui et semblait l'oublier. Christophe se trouvait donc livré à des adversaires et à des admirateurs qui rivalisaient à qui lui nuirait le plus. Dégoûté, il ne répondait point. Quand il lisait les arrêts que prononçait sur lui, du haut d'un grand journal, un de ses critiques présomptueux qui régente l'art avec l'insolence que donnent l'ignorance et l'impunité, il haussait les épaules, disant « Juge-moi, je te juge. Rendez-vous dans 100 ans. » Mais en attendant, les médisances allaient leur train. Et le public, suivant l'habitude, accueillait bouche bée les accusations les plus niaises et les plus ignominieuses. Comme s'il ne trouvait point que la situation fût assez difficile, Christophe choisit ce moment pour se brouiller avec son éditeur. Il n'avait pourtant pas à se plaindre de Hecht, qui lui publiait régulièrement ses nouvelles œuvres et qui était honnête en affaires. Il est vrai que cette honnêteté ne l'empêchait point de conclure des traités désavantageux pour Christophe. Mais ces traités, il les tenait. Il ne les tenait que trop bien. Un jour, Christophe eut la surprise de voir son septuor arrangé en quatuor, et une suite de pièces pour piano à deux mains, gauchement transcrites à quatre mains, sans qu'on l'eût avisé. Il courut chez Hecht, et lui mettant sous le nez les pièces du délit, il dit « Connaissez-vous cela ?»«
Sans doute, » dit Hecht.
« Et vous avez osé ? Vous avez osé tripatouiller mes œuvres sans me demander la permission ?»«
Quelle permission ?» dit Hecht avec calme. « Vos œuvres sont à moi. »«
À moi aussi, je suppose. »
« Non, » fit Hecht doucement.
Christophe bondit. « Mes œuvres ne sont pas à moi ?»«
Elles ne sont plus à vous. Vous me les avez vendues. »«
Vous vous moquez de moi. Je vous ai vendu le papier. Faites-en de l'argent si vous voulez. Mais ce qui est écrit dessus, c'est mon sang. C'est à moi. »
« Vous m'avez tout vendu. En échange de l'œuvre que voici, je vous ai alloué une somme de 300 francs, payable jusqu'à due concurrence, à raison de 30 centimes par exemplaire vendu de l'édition originale. Moyennant quoi, vous m'avez cédé, sans aucune restriction ni réserve, tous vos droits sur votre œuvre.
Même celui de la détruire ?»
Hecht haussa les épaules, sonna, et dit à un employé « Apportez-moi le dossier de M. Kraft. »
Il lut posément à Christophe le texte du traité que Christophe avait signé sans le lire, duquel il résultait, selon la règle ordinaire des traités que souscrivaient alors les éditeurs de musique, que M. Hecht était subrogé dans tous les droits, moyens et actions de l'auteur, et avait, à l'exclusion de tout autre, le droit d'éditer, publier, graver, imprimer, traduire, louer, vendre à son profit, sous telle forme qu'il lui plaisait, faire exécuter dans les concerts, café-concerts, bals, théâtres, etc., l'œuvre dite, publier tout arrangement de l'œuvre, pour quelque instrument et même avec parole, ainsi que d'en changer le titre, etc., etc.
Vous voyez, lui dit-il, que je suis fort modéré.
Évidemment, dit Christophe, je dois vous remercier. Vous auriez pu faire de mon septuor une chanson de café-concert.
Il se tut consterné, la tête entre les mains.
« J'ai vendu mon âme, » répétait-il.
« Soyez sûr, » dit Hecht ironiquement, « que je n'en abuserai pas. »«
Et votre République, » fit Christophe, « autorise ces trafics. Vous dites que l'homme est libre, et vous vendez la pensée à l'encan. »«
Vous avez touché le prix, » dit Hecht.
« 30 deniers, oui, » fit Christophe, « reprenez-les. »
Il fouillait dans ses poches pour rendre à Hecht les 300 francs, mais il ne les avait pas.
Hecht sourit légèrement, avec un peu de dédain. Ce sourire enragea Christophe. « Je veux mes œuvres, dit-il, je vous les rachète. »«
Vous n'en avez aucun droit, dit Hecht. Mais comme je ne tiens nullement à retenir les gens de force, je consens à vous les rendre, si vous êtes en mesure de me rembourser des indemnités dues. »«
Je le serai, dit Christophe. Tu sais, je me vendre moi-même. »
Il accepta sans discuter les conditions que Hecht lui soumit 15 jours plus tard. Par une folie insigne, il rachetait les éditions de ses œuvres à des prix 5 fois supérieurs à ce que ses œuvres lui avaient rapporté, quoique nullement exagérés, car ils étaient scrupuleusement calculés d'après les bénéfices réels que les œuvres apportaient à Hecht. Christophe était incapable de payer, et Hecht y comptait bien. Hecht ne tenait pas à accabler Christophe, qu'il estimait comme artiste et comme homme, plus qu'aucun autre des jeunes musiciens. Mais il voulait lui donner une leçon, car il n'admettait point qu'on se révoltât contre ce qui était son droit. Il n'avait pas fait ses règlements, ils étaient ceux du temps, il les trouvait donc équitables. Il était d'ailleurs sincèrement convaincu qu'ils étaient pour le bien de l'auteur comme de l'éditeur, qui sait mieux que l'auteur les moyens de répandre l'œuvre, et ne s'arrête point, comme lui, à des scrupules d'ordre sentimental respectable, mais contraire à son véritable intérêt. Il était donc décidé à faire réussir Christophe, mais c'était à sa façon et à condition que Christophe lui fût livré, pieds et poings liés. Il voulut lui faire sentir qu'on ne pouvait se dégager si facilement de ses services. Ils firent un marché conditionnel. Si, dans un délai de 6 mois, Christophe ne réussissait pas à s'acquitter, les œuvres restaient en toute propriété à Hecht. Il était à prévoir que Christophe ne pourrait trouver le quart de la somme demandée. Il s'entêta pourtant, donnant congé de son appartement, plein de souvenirs pour lui, afin d'en prendre un autre moins coûteux. Vendant divers objets, dont aucun, à sa surprise, n'avait de valeur, s'endettant, recourant à l'obligeance de Mohock, malheureusement fort dépourvu alors et malade, cloué chez lui par des rhumatismes, cherchant un autre éditeur, et partout se heurtant à des conditions aussi léonines que celles de Hecht, ou même à des refus. C'était le temps où les attaques contre lui étaient le plus vives dans la presse musicale. Un des principaux journaux parisiens était particulièrement acharné. Quelqu'un de ses rédacteurs, qui ne signait point de son nom, l'avait pris comme tête de Turc. Pas de semaine qu'il ne parût dans les Échos quelques notes perfides pour le rendre ridicule. Le critique musical achevait l'œuvre de son confrère masqué. Le moindre prétexte lui était bon pour exprimer son animosité. Ce n'était encore que les premières escarmouches. Il promettait d'y revenir et de procéder sous peu à une exécution en règle. Il ne se pressait point, sachant qu'aucune accusation précise ne vaut pour le public une suite d'insinuations obstinément répétées. Il jouait avec Christophe comme le chat avec la souris. Christophe, à qui les articles étaient envoyés, les méprisait, mais ne laissait pas d'en souffrir. Cependant, il se taisait, et au lieu de répondre, l'aurait-il pu, même s'il l'avait voulu, il s'obstinait dans sa lutte d'amour-propre inutile et disproportionnée avec son éditeur. Il y perdait son temps, ses forces, son argent et ses seules armes, puisque de gaieté de cœur, il prétendait renoncer à la publicité que Hecht faisait à sa musique. Brusquement, tout changea. L'article annoncé dans le journal ne parut point. Les insinuations se turent. La campagne s'arrêta net. Bien plus, 2 ou 3 semaines après, le critique du journal publiait, d'une façon incidente, quelques lignes élogieuses qui semblaient attester que la paix était faite. Un grand éditeur de Leipzig écrivit à Christophe pour lui demander de publier ses œuvres, et le traité fut conclu à des conditions avantageuses. Une lettre flatteuse, qui portait le cachet de l'ambassade d'Autriche, exprima à Christophe le désir qu'on avait d'introduire certaines de ses compositions sur les programmes des soirées de gala données à l'ambassade. Philomèle, que patronnait Christophe, fut priée de se faire entendre à une de ces soirées, et aussitôt après, elle fut partout demandée dans les salons aristocratiques de la colonie allemande et italienne de Paris. Christophe lui-même, qui ne put se dispenser de venir à un des concerts, trouva le meilleur accueil auprès de l'ambassadeur. Cependant, quelques mots d'entretien lui montrèrent que son hôte, assez peu musicien, ne connaissait rien de ses œuvres. D'où venait donc cet intérêt subit? Une invisible main semblait veiller sur lui, écarter les obstacles, lui aplanir la route. Christophe s'informa. L'ambassadeur fit allusion à 2 amis de Christophe, le comte et la comtesse Bérénie, qui avaient une grande sympathie pour lui. Christophe ignorait jusqu'à leur nom, et le soir qu'il vint à l'ambassade, il n'eut pas l'occasion de leur être présenté. Il n'insista pas pour les connaître. Il traversait une période de dégoût des hommes, où il faisait aussi peu fond sur ses amis que sur ses ennemis. Amis et ennemis étaient également incertains. Un souffle les changeait. Il fallait apprendre à s'en passer, et dire, comme ce vieux homme du XVIIe siècle, « Dieu m'a donné des amis, il me les a ôtés. Ils m'ont laissé, je les laisse, et n'en fais point mention. » Depuis qu'il avait quitté la maison d'Olivier, Olivier ne lui avait plus donné signe de vie. Tout semblait fini entre eux. Christophe ne tenait pas à faire des amitiés nouvelles. Il se représentait le comte et la comtesse Bérénie à l'image de tant de snobs qui se disaient ses amis. Et il ne fit rien pour les rencontrer. Il les eut plutôt fuis. C'était Paris tout entier qu'il eût voulu fuir. Il avait besoin de se réfugier pour quelques semaines dans une solitude amie. S'il avait pu se retremper quelques jours, seulement quelques jours dans son pays natal. Peu à peu, cette pensée devenait un désir maladif. Il voulait revoir son fleuve, son ciel, la terre de ses morts. Il fallait qu'il les revît. Il ne le pouvait point sans risquer sa liberté. Il était toujours sous le coup de l'arrêt lancé contre lui lors de sa fuite d'Allemagne. Mais il se sentait prêt à toutes les folies pour rentrer, ne fût-ce qu'un seul jour. Par bonheur, il en parla à un de ses nouveaux protecteurs. Comme un jeune attaché à l'ambassade d'Allemagne, rencontré à la soirée où l'on donnait ses œuvres, lui disait que son pays était fier d'un musicien tel que lui, Christophe répondit amèrement « Il est si fier de moi qu'il me laissera mourir à sa porte sans m'ouvrir. » Le jeune diplomate se fit expliquer la situation. Et quelques jours après, il revint voir Christophe et lui dit « On s'intéresse à vous en haut lieu. » Un très grand personnage, qui a seul pouvoir pour suspendre les effets du jugement qui pèse sur vous, a été mis au courant de votre situation, et il daigne en être touché. Je ne sais pas comment votre musique a pu lui plaire, car, entre nous, il n'a pas le goût fort bon, mais il est intelligent et il a le cœur généreux. Sans qu'il soit possible de lever pour le moment l'arrêt rendu contre vous, on consent à fermer les yeux si vous voulez passer 48 heures dans votre ville pour revoir les vôtres. Voici un passeport. Vous le ferez viser à l'arrivée et au départ. Soyez prudent et n'attirez pas l'attention. » Christophe revit encore une fois sa terre. Il passa les 2 jours qui lui étaient accordés, ne s'entretenant qu'avec elle et ceux qui étaient en elle. Il vit la tombe de sa mère. L'herbe y poussait, mais des fleurs y avaient été déposées récemment. Côte à côte dormaient le père et le grand-père. Il s'assit à leurs pieds. La tombe était adossée au mur d'enceinte. Un châtaignier qui poussait de l'autre côté, dans le chemin creux, l'ombrageait. Par-dessus le mur bas, on voyait les moissons dorées où le vent tiède faisait passer des ondulations molles. Le soleil régnait sur la terre assoupie. On entendait le cri des cailles dans les blés et sur les tombes la douce houle des cyprès. Christophe était seul et rêvait. Son cœur était calme. Assis, les mains jointes autour du genou, et le dos appuyé au mur, il regardait le ciel. Ses yeux se fermèrent un moment. Comme tout était simple. Il se sentait chez lui, parmi les siens. Il se tenait auprès d'eux, la main dans la main. Les heures s'écoulaient. Vers le soir, des pas firent crier le sable des allées. Le gardien passa, regarda Christophe assis. Christophe lui demanda qui avait mis les fleurs. L'homme répondit que la fermière de Buire passait 1 ou 2 fois par an. « Lorchen ?» dit Christophe. Ils causèrent. « Vous êtes le fils, » dit l'homme. « Elle en avait 3, » dit Christophe. « Je parle de celui de Hambourg. Les autres ont mal tourné. » Christophe, la tête un peu renversée en arrière, immobile, se taisait. Le soleil descendait. « Je vais fermer, » dit le gardien. Christophe se leva, et fit lentement avec lui le tour du cimetière. Le gardien faisait les honneurs de chez lui. Christophe s'arrêtait pour lire les noms inscrits. Que de gens de sa connaissance il retrouvait là, réunis. Le vieux Euler, son gendre, plus loin des camarades d'enfance, de petites filles avec qui il avait joué. Et là, un nom qui lui remua le cœur, Ada. Paix sur tous. Les flammes du couchant ceinturaient le tranquille horizon. Christophe sortit. Il se promena longtemps encore dans les champs. Les étoiles s'allumaient. Le lendemain, il revint, et de nouveau passa l'après-midi à sa place de la veille. Mais le beau calme silencieux de la veille s'était animé. Son cœur chantait un hymne insouciant et heureux. Assis sur la margelle de la tombe, il écrivait sur ses genoux, au crayon, dans un carnet de notes, le chant qu'il entendait. Le jour ainsi passa. Il lui semblait qu'il travaillait dans sa petite chambre d'autrefois, et que la maman était là, de l'autre côté de la cloison. Quand il eut fini et qu'il fallut partir, il était déjà à quelques pas de la tombe, il se ravisa, il revint, et enfouit le carnet dans l'herbe sous le lierre. Quelques gouttes de pluie commençaient à tomber. Christophe pensa, il sera vite effacé, tant mieux. Pour toi seul, pour nul autre. Il revit aussi le fleuve, les rues familières où tant de choses étaient changées. Aux portes de la ville, sur les promenades des anciens bastions, un petit bois d'acacia qu'il avait vu planter avait conquis la place, étouffé les vieux arbres. En longeant le mur qui bordait le jardin des deux Kerrich, il reconnut la borne sur laquelle il grimpait lorsqu'il était gamin pour regarder dans le parc, et il fut étonné de voir comme la rue, le mur, le jardin étaient devenus petits. Devant la grille d'entrée, il s'arrêta un moment. Il continuait son chemin quand une voiture passa. Machinalement, il leva les yeux, et ses yeux rencontrèrent ceux d'une jeune dame, fraîche, grasse, réjouie, qui l'examinait curieusement. Elle fit une exclamation de surprise. À son geste, la voiture s'arrêta. Elle dit « Monsieur Kraft ». Il s'arrêta. Elle dit en riant « Mina ». Il courut à elle, presque aussi troublé qu'au jour de la première rencontre. Elle était avec un monsieur, grand, gros, chauve, aux moustaches relevées d'un air vainqueur qu'elle présenta, Herr Reichsgerichtsrat von Brombach, son mari. Elle voulut que Christophe entrât à la maison. Il cherchait à s'excuser. Mais Mina s'exclamait « Non, non, il devait venir, venir dîner ». Elle parlait très fort et très vite, et sans attendre les questions, déjà racontait sa vie. Christophe, abasourdi par sa volubilité et par son bruit, n'entendait qu'à moitié, et il la regardait. C'était là sa petite Mina. Elle était florissante, robuste, rembourrée de toutes parts, une jolie peau, un teint de rose, mais les traits élargis, particulièrement le nez solide et bien nourri. Les gestes, les manières, les gentillesses étaient restés les mêmes, mais le volume avait changé. Cependant, elle ne cessait de parler. Elle racontait à Christophe les histoires de son passé, ses histoires intimes, la façon dont elle avait aimé son mari et dont son mari l'avait aimé. Christophe était gêné. Elle avait un optimisme sans critique qui lui faisait trouver parfait et supérieur aux autres, du moins quand elle était en présence des autres, sa ville, sa maison, sa famille et elle-même. Elle disait de son mari et devant lui qu'il était l'homme le plus grandiose qu'elle eût jamais vu, qu'il avait en lui une force surhumaine. L'homme le plus grandiose tapotait en riant les joues de Mina et déclarait à Christophe qu'elle était une femme hautement éminente. Il semblait que M. le Reichsgerichtsrat fût au courant de la situation de Christophe et qu'il ne sût au juste s'il devait le traiter avec égard ou sans égard, vu sa condamnation d'une part et de l'autre, vu l'auguste protection qui le couvrait. Il prit le parti de mélanger les deux manières. Pour Mina, elle parlait toujours. Quand elle eut abondamment parlé d'elle à Christophe, elle parla de lui. Elle le harcela de questions aussi intimes que l'avaient été les réponses aux questions supposées qu'il ne lui avait point faites. Elle était ravie de revoir Christophe. Elle ne connaissait rien de sa musique, mais elle savait qu'il était connu. Elle était flattée qu'il l'eût aimée, et qu'elle l'eût refusé. Elle le lui rappela en plaisantant, sans beaucoup de délicatesse. Elle lui demanda son autographe pour son album. Elle l'interrogea avec insistance sur Paris. Elle manifestait pour cette ville autant de curiosité que de mépris. Elle prétendait la connaître, ayant vu les Folies Bergères, l'Opéra, Montmartre et Saint-Cloud. D'après elle, les Parisiennes étaient des cocottes, de mauvaises mères, qui avaient le moins possible d'enfants et ne s'en occupaient point, les laissant au logis pour aller au théâtre ou dans les lieux de plaisir. Elle n'admettait point qu'on la contredît. Au cours de la soirée, elle voulut que Christophe jouât un morceau de piano. Elle le trouva charmant. Mais au fond, elle admirait autant le jeu de son mari. Christophe eut le plaisir de revoir la mère de Mina, Madame de Kerrich. Il avait conservé pour elle une secrète tendresse, parce qu'elle avait été bonne pour lui. Elle n'avait rien perdu de sa bonté, et elle était plus naturelle que Mina. Mais elle témoignait toujours à Christophe cette petite ironie affectueuse qui l'irritait jadis. Elle en était restée au point où il l'avait laissée. Elle aimait les mêmes choses, et il ne lui semblait pas admissible qu'on pût faire mieux, ni autrement. Elle opposait le Jean-Christophe d'autrefois au Jean-Christophe d'aujourd'hui, et elle le préférait au premier. Autour d'elle, personne n'avait changé d'esprit que Christophe. L'immobilité de la petite ville, son étroitesse d'horizon, lui était pénible. Ses hôtes passèrent une partie de la soirée à l'entretenir de commérages sur le compte de gens qu'ils ne connaissaient pas. Ils étaient à l'affût des ridicules de leurs voisins, et ils décrétaient ridicule tout ce qui différait d'eux. Cette curiosité malveillante, perpétuellement occupée de rien, finissait par causer à Christophe un malaise insupportable. il essaya de parler de sa vie à l'étranger, mais tout de suite il se heurta à l'impossibilité de leur faire sentir cette civilisation française dont il avait souffert et qui lui était devenue chère en ce moment qu'il la représentait dans son propre pays. Ce libre esprit latin, dont la première loi est l'intelligence, comprendre le plus possible, au risque de faire bon marché de la moralité. Il retrouvait chez ses hôtes, et surtout chez Mina, cet esprit orgueilleux qu'il avait blessé autrefois, mais dont il avait perdu le souvenir, orgueilleux par faiblesse autant que par vertu, cette honnêteté sans charité, fière de sa vertu et méprisante des défaillances qu'elle ne pouvait pas connaître, le culte du « comme il faut », le dédain scandalisé des supériorités irrégulières. Mina avait une assurance tranquille et sentencieuse d'avoir toujours raison, aucune nuance dans sa façon de juger les autres. Elle ne se souciait pas de les comprendre, elle n'était occupée que d'elle-même. Son égoïsme se badigeonnait d'une vague teinture métaphysique. Il était constamment question de son « moi », du développement de son « moi ». Elle était peut-être une bonne femme et capable d'aimer, mais elle s'aimait trop. Surtout, elle se respectait trop. Elle avait l'air de dire perpétuellement le pater et l'ave devant son « moi ». On avait le sentiment qu'elle eût cessé totalement d'aimer, et pour toujours, l'homme qu'elle aimait le mieux, s'il eût manqué un seul instant, l'aurait-il regretté mille fois par la suite, au respect dû envers la dignité de son « moi ». Au diable ton « moi », pense donc un peu au « toi ». Cependant, Christophe ne la voyait pas avec des yeux sévères. Lui qui était si irritable à l'ordinaire, il l'écoutait parler avec une patience archangélique. Il se défendait de la juger. Il l'entourait comme d'une auréole du religieux souvenir de son enfance, et il s'obstinait à rechercher en elle l'image de la petite Mina. Il n'était pas impossible de la reconnaître en certains de ses gestes. Le timbre de sa voix avait certaines sonorités qui réveillaient des échos émouvants. Il s'absorbait en eux, se taisant, n'écoutant pas les paroles qu'elle disait, ayant l'air d'écouter, ne cessant de lui témoigner un respect attendri. Mais il avait du mal à concentrer son esprit. Elle faisait trop de bruit. Elle l'empêchait d'entendre Mina. À la fin, il se leva un peu là. « Pauvre petite Mina, il voudrait me faire croire que tu es là, dans cette belle grosse personne qui crie fort et qui m'ennuie. Mais je sais bien que non. Allons-nous-en, Mina. Qu'avons-nous à faire de ces gens ?» Il s'en alla, leur laissant croire qu'il reviendrait le lendemain. S'il avait dit qu'il repartait le soir, ils ne l'eussent point lâché jusqu'à l'heure du train. Dès le premier pas dans la nuit, il retrouva l'impression de bien-être qu'il avait avant d'avoir rencontré la voiture. Le souvenir de la soirée importune s'effaça, comme d'un coup d'éponge. Il n'en resta plus rien. La voix du Rhin noya tout. Il allait sur le bord, du côté de la maison où il était né. Il n'eut pas de peine à la reconnaître. Les volets étaient fermés, on dormait. Christophe s'arrêta au milieu de la route. Il lui semblait que s'il frappait à la porte, les fantômes connus lui ouvriraient. Il pénétra dans le pré, autour de la maison, près du fleuve, à l'endroit où il allait causer jadis avec Gottfried le soir. Il s'assit, et les jours passés revécurent, et la chère petite fille qui avait bu avec lui le rêve du premier amour était ressuscitée. Ils revivaient ensemble la jeune tendresse, et ses douces larmes et ses espoirs infinis. Et il se dit, avec un sourire de bonhomie, « La vie ne m'a rien appris. J'ai beau savoir, j'ai toujours les mêmes illusions. Qu'il est bon d'aimer et de croire intarissablement. Tout ce que touche l'amour est sauvé de la mort. Mina, qui es avec moi, pas avec l'autre. Mina, qui ne vieillira jamais. » La lune voilée sortit des nuages, et sur le dos du fleuve fit luire des écailles d'argent. Christophe eut l'impression que le fleuve ne passait pas jadis aussi près du tertre où il était assis. Il s'approcha. Oui, il y avait là, naguère, au-delà de ce poirier, une langue de sable, une petite pente gazonnée, où il avait joué bien des fois. Le fleuve les avait rongés. Il avançait, léchant les racines du poirier. Christophe eut un serrement de cœur. Il revint vers la gare. De ce côté, un nouveau quartier. Maisons pauvres, chantiers en construction, grande cheminée d'usine, commençait à s'élever. Christophe songea au bois d'acacia qu'il avait vu dans l'après-midi, et il pensa, là aussi le fleuve ronge. La vieille ville, endormie dans l'ombre, avec tout ce qu'elle renfermait, vivants et morts, lui fut plus chère encore, car il la sentit menacée. Hostis abet mouros. Vite, sauvons les nôtres. La mort guette tout ce que nous aimons. Hâtons-nous de graver le visage qui passe sur le bronze éternel. Arrachons aux flammes le trésor de la patrie avant que l'incendie dévore le palais de Priam. Christophe monta dans le train qui partit comme un homme qui fuit devant l'inondation. Mais pareil à ceux-là qui sauvaient du naufrage de leur ville les dieux de la cité, Christophe emportait en lui l'étincelle d'amour qui avait jailli de sa terre et l'âme sacrée du passé. Jacqueline et Olivier s'étaient rapprochés pour un temps. Jacqueline avait perdu son père. Cette mort l'avait profondément remuée. En présence du malheur véritable, elle sentit la misérable niaiserie des autres douleurs. Et la tendresse que lui témoignait Olivier ranima son affection pour lui. Elle se trouvait ramenée de quelques années en arrière, au triste jour qui avait suivi la mort de la tante Marthe et qui avait été suivi des jours bénis d'amour. Elle se disait qu'elle était ingrate envers la vie et qu'il fallait lui savoir gré de ne pas vous prendre le peu qu'elle vous avait donné. Ce peu dont le prix lui était révélé, elle le serrait jalousement contre elle. Un éloignement momentané de Paris, que le médecin avait prescrit pour la distraire de son deuil, un voyage qu'elle fit avec Olivier, une sorte de pèlerinage au lieu où ils s'étaient aimés pendant la première année de leur mariage, acheva de l'attendrir. Dans la mélancolie de retrouver au détour du chemin la chère figure de l'amour qu'on croyait disparue, et de la voir passer, et de savoir qu'elle disparaîtrait de nouveau, pour combien de temps, pour toujours peut-être, il l'étreignait avec une passion désespérée. « Reste, reste avec nous !» Mais il savait bien qu'ils allaient le perdre. Quand Jacqueline revint à Paris, elle sentait tressaillir dans son corps une petite vie nouvelle, allumée par l'amour. Mais l'amour était déjà passé. Le fardeau qui s'appesantissait en elle ne la rattachait pas à Olivier. Elle n'en éprouvait point la joie qu'elle attendait. Elle s'interrogeait avec inquiétude. Naguère, quand elle se tourmentait, souvent elle avait pensé que la venue d'un petit enfant serait le salut pour elle. Le petit enfant était là, le salut n'était pas venu. Cette plante humaine qui enfonçait ses racines dans sa chair, elle la sentait avec effroi, pousser, boire son sang. Elle restait des journées, absorbée, écoutant, le regard perdu, tout son être aspiré par l'être inconnu qui avait pris possession d'elle. C'était un bourdonnement vague, doux, endormant, angoissant. Elle se réveillait en sursaut de cette torpeur, moite de sueur, frissonnante, avec un éclair de révolte. Elle se débattait contre le filet où la nature l'avait prise. Elle voulait vivre, elle voulait être libre. Il lui semblait que la nature l'avait dupée. Puis, elle avait honte de ses pensées, elle se trouvait monstrueuse. Elle se demandait si elle était donc plus mauvaise ou autrement faite que les autres femmes. Et peu à peu, elle s'apaisait de nouveau, engourdie comme un arbre, dans la sève et le rêve du fruit vivant qui mûrissait en ses entrailles. Qu'allait-il être ? Lorsqu'elle entendit son premier cri à la lumière, lorsqu'elle vit ce petit corps pitoyable et touchant, tout son cœur se fondit. Elle connut, en une minute d'éblouissement, cette glorieuse joie de la maternité, la plus puissante qui soit au monde, avoir créé de sa souffrance un être de sa chair, un homme. Et la grande vague d'amour qui remue l'univers l'étreignit de la tête aux pieds, la roula, la souleva jusqu'aux cieux. Ô Dieu, la femme qui crée est ton égale, et tu ne connais pas une joie pareille à la sienne, car tu n'as pas souffert. Et puis la vague retomba, et l'âme retoucha le fond. Olivier, tremblant d'émotion, se penchait sur l'enfant, et, souriant à Jacqueline, il essayait de comprendre quel lien de vie mystérieux il y avait entre eux deux et cet être misérable, encore à peine humain. Tendrement, avec un peu de dégoût, il effleura de ses lèvres cette petite tête jaune et ridée. Jacqueline le regardait. Jalousement, elle le repoussa. Elle saisit l'enfant et le serra contre son sein. Elle le couvrit de baisers. L'enfant cria, elle le rendit, et la tête tournée contre le mur, elle pleura. Olivier vint vers elle, l'embrassa, but ses larmes. Elle l'embrassa aussi, et se força à sourire. Puis elle demanda qu'on la laissât se reposer avec l'enfant près d'elle. Hélas, qu'y faire lorsque l'amour est mort? L'homme qui livre à l'intelligence plus de la moitié de soi-même ne perd jamais un sentiment fort sans en conserver dans son cerveau une trace, une idée. Il peut ne plus aimer, il ne peut pas oublier qu'il a aimé. Mais la femme qui a aimé sans raison tout entière et qui cesse d'aimer sans raison tout entière, qui peut-elle? Vouloir, se faire illusion, et quand elle est trop faible pour vouloir, trop vraie pour se faire illusion. Jacqueline, accoudée sur son lit, regardait l'enfant avec une tendre pitié. Qu'était-il? Quel qu'il fût, il n'était pas d'elle tout entier. Il était aussi l'autre, et l'autre, elle ne l'aimait plus. Pauvre petit, cher petit, elle s'irritait contre cet être qui voulait la rattacher à un passé mort. Et, se penchant sur lui, elle l'embrassait, elle l'embrassait. Le grand malheur des femmes d'aujourd'hui, c'est qu'elles sont trop libres et pas assez. Plus libres, elles chercheraient des liens, elles y trouveraient un charme et une sécurité. Moins libres, elles se résigneraient à des liens qu'elles sauraient ne pouvoir briser. Et elles souffriraient moins. Mais le pire est d'avoir des liens qui ne vous lient pas et des devoirs dont on peut s'affranchir. Si Jacqueline avait cru que sa petite maison lui était assignée pour toute la durée de la vie, elle l'eût trouvée moins incommode et moins étroite. Elle se fût ingéniée à la rendre confortable. Elle eût fini, comme elle avait commencé, par l'aimer. Mais elle savait qu'elle en pouvait sortir, et elle y étouffait. Elle pouvait se révolter, elle en arriva à croire qu'elle le devrait. Les moralistes d'à présent sont d'étranges animaux. Tout leur être s'est atrophié, au profit des facultés d'observation. Ils ne cherchent plus qu'à voir la vie, à peine à la comprendre, nullement à la vouloir. Quand ils ont reconnu dans la nature humaine et noté ce qui est, leur tâche leur paraît accomplie. Ils disent « cela est ». Ils n'essaient point de le changer. Il semble qu'à leurs yeux, le seul fait d'exister soit une vertu morale. Toutes les faiblesses se sont trouvées, du coup, investies d'une sorte de droit divin. Le monde se démocratise. Autrefois, le roi seul était irresponsable. Aujourd'hui, ce sont tous les hommes, et de préférence la canaille. Les admirables conseillers, avec beaucoup de peine et un soin scrupuleux, ils s'appliquent à démontrer aux faibles à quel point ils sont faibles, et que, de par la nature, il en a été décrété ainsi de toute éternité. Que reste-t-il aux faibles qu'à se croiser les bras? Bienheureux quand ils ne s'admirent point. À force de s'entendre répéter qu'elle est une enfant malade, la femme s'enorgueillit de l'être. On cultive ses lâchetés, on les fait s'épanouir. Qui s'amuserait à compter complaisamment aux enfants qu'il est un âge dans l'adolescence où l'âme qui n'a pas encore trouvé son équilibre est capable des crimes, du suicide, des pires dépravations physiques et morales, et qui les excuserait, sur le champ, les crimes naîtraient. L'homme même, il suffit de lui répéter qu'il n'est point libre pour qu'il ne le soit plus et se livre à la bête. Dites à la femme qu'elle est responsable, maîtresse de son corps et de sa volonté, et elle le sera. Mais lâche que vous êtes, vous vous gardez bien de le dire, car vous avez intérêt à ce qu'elle ne le sache point. Le triste milieu où se trouvait Jacqueline acheva de l'égarer. Depuis qu'elle s'était détachée d'Olivier, elle était rentrée dans ce monde qu'elle méprisait quand elle était jeune fille. Autour d'elle et de ses amis mariés, s'était formée une petite société de jeunes hommes et de jeunes femmes riches, élégants, désœuvrés, intelligents et veules. Il y régnait une liberté absolue de pensée et de propos que tempérait seulement, en l'assaisonnant, l'esprit. Volontiers, ils eussent pris la devise de l'abbaye raplésienne « Fais ce que voudras ». Mais ils se vantaient un peu, car ils ne voulaient pas grand-chose. C'étaient les énervés de Thélème. Ils professaient avec complaisance la liberté des instincts, mais ces instincts chez eux étaient fort effacés, et leur dévergondage restait surtout cérébral. Ils jouissaient de se sentir fondre dans la grande piscine fade et voluptueuse de la civilisation, ce tiède bain de boue où se liquéfient les énergies humaines, les rudes puissances vitales, l'animalité primitive et ses floraisons de foi, de volonté, de passion et de devoir. Dans cette pensée gélatineuse, le joli corps de Jacqueline se baignait. Olivier ne pouvait l'en empêcher. Il était lui aussi touché par la maladie du temps. Il ne se croyait pas le droit d'entraver la liberté de celle qu'il aimait. Il ne voulait rien obtenir si ce n'était par l'amour. Et Jacqueline ne lui en savait aucun gré, puisque sa liberté était pour elle un droit. Le pire était qu'elle apportait dans ce monde amphibie un cœur entier qui répugnait à tout équivoque. Quand elle croyait, elle se donnait. Sa petite âme ardente et généreuse, dans son égoïsme même, brûlait tous ses vaisseaux. Et de sa vie en commun avec Olivier, elle avait conservé une intransigeance morale qu'elle était prête à appliquer jusque dans l'immoralité. Ses nouveaux amis étaient bien trop prudents pour se montrer aux autres comme ils étaient. S'ils affichaient en théorie une liberté complète à l'égard des préjugés de la morale et de la société, ils s'arrangeaient dans la pratique de façon à ne rompre en visière avec aucun qui leur fût avantageux. Ils se servaient de la morale et de la société en les trahissant, comme des domestiques infidèles qui volent leur maître. Ils se volaient même les uns les autres par habitude et par désœuvrement. Il en était plus d'un parmi ses maris qui savait que sa femme avait des amants. Ces femmes n'ignoraient point que leur mari avait des maîtresses. Ils s'en accommodaient. Le scandale ne commence que lorsqu'on fait du bruit. Ces bons ménages reposaient sur une entente tacite entre associés, entre complices. Mais Jacqueline, plus franche, jouait bon jeu, bon argent. D'abord être sincère, et puis être sincère, et encore et toujours être sincère. La sincérité était aussi une des vertus que prônait la pensée du temps. Mais c'est ici qu'on voit que tout est saint pour les saints et que tout est corruption pour les cœurs corrompus. Qu'il est laid parfois d'être sincère. C'est un péché pour les médiocres de vouloir lire au fond d'eux-mêmes. Ils y lisent leur médiocrité, et l'amour-propre y trouve encore son compte. Jacqueline passait son temps à s'étudier dans son miroir. Elle y voyait des choses qu'elle eût mieux fait de ne jamais voir, car, après les avoir vues, elle n'avait plus la force d'en détacher les yeux. Et au lieu de les combattre, elle les regardait grossir. Elle devenait énorme. Elle finissait par s'emparer de ses yeux et de sa pensée. L'enfant ne suffisait pas à remplir sa vie. Elle n'avait pu l'allaiter. Le petit dépérissait. Il avait fallu prendre une nourrice. Gros chagrin d'abord. Ce fut bientôt un soulagement. Le petit se portait maintenant à merveille. Il poussait vigoureusement, comme un brave petit gars qui ne donnait point de tracas, passait son temps à dormir et criait à peine la nuit. La nourrice, une robuste nivernaise, qui n'en était pas à son premier nourrisson et qui, à chaque fois, se prenait pour lui d'une affection animale, jalouse et encombrante, semblait la véritable mère. Quand Jacqueline exprimait un avis, l'autre n'en faisait qu'à sa tête. Et si Jacqueline essayait de discuter, elle finissait par s'apercevoir qu'elle n'y connaissait rien. Elle ne s'était jamais bien remise depuis la naissance de l'enfant. Un commencement de phlébite l'avait abattue. Obligée pendant des semaines à l'immobilité, elle se rongeait. Sa pensée fiévreuse ressassait indéfiniment la même plainte monotone et hallucinée. Elle n'avait pas vécu, elle n'avait pas vécu, et maintenant sa vie était finie. Car son imagination était frappée. Elle se croyait estropiée pour toujours. Et une rancune sourde, âcre, inavouée, montait en elle contre la cause innocente de son mal, contre l'enfant. C'est là un sentiment moins rare qu'on ne croit. Mais on jette le voile dessus. Celles même qui l'éprouvent ont honte d'en convenir dans le secret de leur cœur. Jacqueline se condamnait. Un combat se livrait entre son égoïsme et l'amour maternel. Quand elle voyait l'enfant qui dormait comme un bienheureux, elle était attendrie. Mais aussitôt après, elle pensait avec amertume, « Il m'a tué. » Et elle ne pouvait refouler une révolte irritée contre le sommeil indifférent de cet être dont elle avait acheté le bonheur au prix de sa souffrance. Même après qu'elle fut guérie, quand l'enfant fut plus grand, ce sentiment d'hostilité persista obscurément. Comme elle en avait honte, elle le reportait contre Olivier. Elle continuait de se croire malade, et le souci perpétuel de sa santé, ses inquiétudes qu'entretenaient les médecins, en cultivant son oisiveté qui en était la source, séparation de l'enfant, inaction forcée, isolement absolu, semaine de néant à rester étendu, à se faire gaver au lit comme une bête à l'engrais, achevèrent de concentrer ses préoccupations sur elle. Étrange cure moderne de la neurasthénie, qui substitue à une maladie du moi une autre maladie, l'hypertrophie du moi. Que ne pratiquez-vous une saignée à leur égoïsme, ou par quelque réactif moral, que ne ramenez-vous leur sang, s'ils n'en ont pas de trop, de leur tête à leur cœur? Jacqueline sortit de là, physiquement plus forte, engraissée, rajeunie, moralement plus malade que jamais. Son isolement de quelques mois avait brisé les derniers liens de pensée qui la rattachaient à Olivier. Tant qu'elle était demeurée près de lui, elle subissait encore l'ascendant de cette nature idéaliste qui, malgré ses faiblesses, restait constante dans sa foi. Elle se débattait en vain contre l'esclavage où la tenait un esprit plus ferme que le sien, contre ce regard qui la pénétrait, qui la forçait à se condamner parfois, quelque dépit qu'elle en eût. Mais dès que le hasard l'eut séparée de cet homme, qu'elle ne sentit plus peser sur elle son amour clairvoyant, qu'elle fut libre, aussitôt succéda à la confiance amicale qui subsistait entre eux, une rancune de s'être ainsi livrée, une haine d'avoir porté si longtemps le joug d'une affection qu'elle ne ressentait plus. Qui dira les rancunes implacables qui couvent dans le cœur d'un être qu'on aime et dont on se croit aimé? Du jour au lendemain, tout est changé. Elle aimait la veille, elle le semblait, elle le croyait, elle n'aime plus. Celui qu'elle a aimé est rayé de sa pensée. Il s'aperçoit tout à coup qu'il n'est plus rien pour elle, et il ne comprend pas. Il n'a rien vu du long travail qui se faisait en elle. Il ne s'est point douté de l'hostilité secrète qui s'amassait contre lui. Il ne veut pas sentir les raisons de cette vengeance et de cette haine. Raisons souvent lointaines, multiples et obscures, certaines ensevelies sous les voiles de l'alcôve, d'autres d'amour-propre blessé, secret du cœur aperçu et jugé, d'autres quand c'est elle elle-même. Il est telle offense cachée qu'on lui fit sans le savoir et qu'elle ne pardonnera jamais. Jamais on ne parviendra à la connaître, elle-même ne la connaît plus bien. Mais l'offense est inscrite dans sa chair, jamais sa chair n'oubliera. Contre cet effrayant courant de désaffection, il eût fallu pour lutter être un autre homme qu'Olivier. Plus près de la nature, plus simple et plus souple à la fois, ne s'embarrassant pas de scrupules sentimentaux, riche d'instinct et capable, au besoin, d'actes que sa raison eût désavoués. Il était vaincu d'avance, découragé. Trop lucide, il reconnaissait depuis longtemps en Jacqueline une hérédité plus forte que la volonté, l'âme de la mère. Il la voyait tomber comme une pierre au fond de sa race. Et, faible et maladroit, tous les efforts qu'il tentait accéléraient la chute. Il se contraignait au calme. Elle, par un calcul inconscient, tâchait de l'en faire sortir, de lui faire dire des choses violentes, brutales, grossières, afin de se donner des raisons de le mépriser. S'il cédait à la colère, elle le méprisait. S'il en avait honte ensuite et prenait un air humilié, elle le méprisait encore plus. Et s'il ne cédait pas à la colère, s'il ne voulait pas céder, alors elle le haïssait. Et le pire de tout, ce silence où ils se muraient, des jours l'un en face de l'autre. Silence asphyxiant, affolant, où les plus doux des êtres finissent par devenir enragés, où ils sentent par moments un désir de faire du mal, de crier, de faire crier. Silence, noir silence, où l'amour achève de se désagréger, où les êtres comme des mondes, chacun sur son orbite, s'enfoncent dans la nuit. Ils en étaient venus à un point où tout ce qu'ils faisaient, même pour se rapprocher, était une cause d'éloignement. Leur vie était intolérable. Un hasard précipita les événements. Depuis un an, Cécile Fleury venait souvent chez les Jeannin. Olivier l'avait rencontrée chez Christophe. Puis Jacqueline l'invita. Et Cécile continua de les voir, même après que Christophe s'était séparé d'eux. Jacqueline avait été bonne pour elle. Bien qu'elle ne fût guère musicienne, et qu'elle trouvât Cécile un peu commune, elle goûtait le charme de son chant et son influence apaisante. Olivier avait plaisir à faire de la musique avec elle. Peu à peu, elle était devenue une amie de la maison. Elle inspirait confiance. Quand elle entrait dans le salon des Jeannin, avec ses yeux francs, son air de santé, de bons rires un peu gros qui faisaient du bien à entendre, c'était comme un rayon de soleil qui pénétrait au milieu du brouillard. Le cœur d'Olivier et de Jacqueline en éprouvait un soulagement. Lorsqu'elle partait, ils avaient envie de lui dire « Restez, restez encore, j'ai froid ». Pendant l'absence de Jacqueline, Olivier avait vu Cécile plus souvent, et il ne put lui cacher un peu de ses chagrins. Il le fit avec l'abandon irréfléchi d'une âme faible et tendre qui étouffe, qui a besoin de se confier et qui se livre. Cécile en fut touchée. Elle lui versa le baume de ses paroles maternelles. Elle les plaignait tous deux. Elle engageait Olivier à ne pas se laisser abattre. Mais soit qu'elle sentît plus que lui la gêne de ses confidences, soit pour quelque autre raison, elle trouva des prétextes pour venir moins souvent. Sans doute, il lui semblait qu'elle n'agissait pas loyalement envers Jacqueline. Elle n'avait pas le droit de connaître ses secrets. Olivier interpréta ainsi son éloignement, et il l'approuva, car il se reprochait d'avoir parlé. Mais l'éloignement lui fit sentir ce que Cécile était devenue pour lui. Il s'était habitué à partager ses pensées avec elle. Elle seule le délivrait de la peine qui l'oppressait. Il était trop expert à lire dans ses sentiments pour douter du nom qu'il fallait donner à celui-ci. Il n'en eut rien dit à Cécile, mais il ne résista pas au besoin d'écrire pour lui ce qu'il sentait. Il était revenu depuis peu à la dangereuse habitude de s'entretenir sur le papier avec sa pensée. Il s'en était guéri pendant ses années d'amour, mais à présent qu'il se retrouvait seul, la manie héréditaire l'avait repris. C'était un soulagement lorsqu'il souffrait et une nécessité d'artiste qui s'analyse. Ainsi il se décrivait, il écrivait ses peines comme s'il les disait à Cécile, plus librement puisqu'elle ne les lirait jamais. Et le hasard voulut que ces pages tombassent sous les yeux de Jacqueline. C'était un jour où elle se sentait plus près d'Olivier qu'elle ne l'avait été depuis des années. En rangeant son armoire, elle avait relu les vieilles lettres d'amour qu'il lui envoyait. Elle en avait été émue jusqu'à pleurer. Assise à l'ombre de l'armoire, sans pouvoir achever le rangement, elle avait revécu tout son passé, et elle avait un remords douloureux de l'avoir détruit. Elle songeait au chagrin d'Olivier. Jamais elle n'avait pu de sang-froid en envisager la pensée. Elle pouvait l'oublier, mais elle ne pouvait supporter l'idée qu'il souffrit par elle. Elle avait le cœur déchiré. Elle eût voulu se jeter dans ses bras, lui dire « Ah, Olivier, Olivier, qu'est-ce que nous avons fait? Nous sommes fous, nous sommes fous. Ne nous faisons plus souffrir. » S'il était rentré à ce moment, et ce fut à ce moment justement qu'elle trouva ses lettres, tout fut fini. Pensa-t-elle qu'Olivier l'avait réellement trompée? Peut-être, mais qu'importe. La trahison pour elle n'était pas tant dans l'acte que dans la volonté. Elle eût pardonné plus aisément à celui qu'elle aimait d'avoir une maîtresse que d'avoir en secret donné son cœur à une autre. Et elle avait raison. La belle affaire, diront certains. Les pauvres êtres qui ne souffrent d'une trahison d'amour que si elle est consommée. Quand le cœur reste fidèle, les vilainies du corps sont peu de choses. Quand le cœur a trahi, le reste n'est plus rien. Jacqueline ne pensa pas une minute à reconquérir Olivier. Trop tard, elle ne l'aimait plus assez. Ou peut-être qu'elle l'aimait trop. Non, ce n'était pas de la jalousie. C'était toute sa confiance qui s'écroulait, tout ce qui lui restait secrètement de foi et d'espoir en lui. Elle ne se disait pas qu'elle en avait fait fi, qu'elle l'avait découragé, poussé à cet amour, que cet amour était innocent, et que l'on n'est pas le maître, enfin, d'aimer ou de n'aimer point. Il ne lui venait pas à l'idée de comparer à cet entraînement sentimental son flirt avec Christophe. Christophe, elle ne l'aimait point, il ne comptait point. Dans son exagération passionnée, elle pensa qu'Olivier lui mentait et qu'elle n'était plus rien pour lui. Le dernier appui lui manquait au moment où elle tendait la main pour le saisir. Tout était fini. Olivier ne sut jamais ce qu'elle avait souffert en cette journée. Mais quand il la revit, il eut l'impression lui aussi que tout était fini. À partir de ce moment, ils ne se parlèrent plus, sinon quand ils étaient devant les autres. Ils s'observaient comme deux bêtes traquées qui sont sur leur garde et qui ont peur. Jeremias Gotthelf décrit, avec une bonhomie impitoyable, la situation sinistre d'un mari et d'une femme qui ne s'aiment plus et se surveillent mutuellement, chacun épiant la santé de l'autre, guettant les apparences de maladie, ne songeant nullement à hâter la mort de l'autre, ni même à la souhaiter, mais se laissant aller à l'espérance d'un accident imprévu, et se flattant d'être le plus robuste des deux. Il y avait des minutes où Jacqueline et Olivier s'imaginaient que l'autre avait cette pensée, et ni l'un ni l'autre ne l'avait, mais c'était déjà trop de la prêter à l'autre comme Jacqueline, qui, la nuit, dans des secondes d'insomnie hallucinée, se disait que l'autre était le plus fort, l'usait peu à peu, et bientôt triompherait. Délire monstrueux d'une imagination et d'un cœur affolé. Et penser que du meilleur d'eux-mêmes, tout au fond, ils s'aimaient. Olivier, succombant sous le poids, n'essaya plus de lutter. Se tenant à l'écart, il laissa le gouvernail de l'âme de Jacqueline. Abandonnée à elle-même, sans pilote, elle eut le vertige de sa liberté. Il lui fallait un maître contre qui se révolter. Si elle n'en avait point, il lui fallait en créer. Alors elle fut la proie de l'idée fixe. Jusque-là, quoiqu'elle souffrît, elle n'avait jamais conçu la pensée de quitter Olivier. À partir de ce moment, elle se crut dégagée de tout lien. Elle voulait aimer avant qu'il fût trop tard, car elle, si jeune encore, elle se croyait déjà vieille. Elle aima, elle connut ces passions imaginaires et dévorantes qui s'attachent au premier objet rencontré, à une figure entrevue, à une réputation, parfois même à un nom, et qui, après l'avoir agrippé, ne peuvent plus lâcher prise, qui persuadent au cœur qu'il ne saurait se passer de l'objet qu'il a choisi, qui le ravage tout entier, qui font le vide absolu dans tout ce qui le remplissait du passé. Ses autres affections, ses idées morales, ses souvenirs, son orgueil de soi et son respect des autres. Et lorsque l'idée fixe, n'ayant plus rien qui l'alimente, meurt à son tour, après avoir tout brûlé, une nature nouvelle surgit des ruines, une nature sans bonté, sans pitié, sans jeunesse, sans illusion, qui ne pense plus qu'à ronger la vie comme l'herbe qui ronge les monuments détruits. Cette fois, comme à l'ordinaire, l'idée fixe s'attacha à l'être le plus décevant pour le cœur. La pauvre Jacqueline s'éprit d'un homme à bonne fortune, un écrivain parisien, qui n'était pas beau, qui n'était pas jeune, qui était lourd, rougeau, fripé, les dents gâtées, d'une sécheresse de cœur effroyable, et dont le mérite principal était d'être la mode et d'avoir rendu malheureuse un grand nombre de femmes. Elle n'avait même pas l'excuse d'ignorer son égoïsme, car dans son art, il en faisait parade. Il savait ce qu'il faisait, l'égoïsme enchâssé dans l'art et le miroir aux alouettes, le flambeau qui fascine les faibles. Autour de Jacqueline, plus d'une s'était laissée prendre. Tout dernièrement, une jeune femme de ses amis, nouvellement mariée, qu'il avait sans grand-peine pervertie puis plaquée. Elle n'en mourait point, encore que leur dépit fût maladroit à se cacher, pour la joie de la galerie. La plus cruellement atteinte était bien trop soucieuse de son intérêt et de ses devoirs mondains pour ne pas maintenir ses désordres dans les limites du sens commun. Elle ne faisait point d'esclandre. Qu'elles trompassent leurs maris et leurs amis, ou qu'elles fussent trompées et souffrissent, c'était en silence. Elles étaient les héroïnes du Candiraton. Mais Jacqueline était une folle. Non seulement elle était capable de faire ce qu'elle disait, mais de dire ce qu'elle faisait. Elle apportait à ses folies une absence de calcul, un désintéressement absolu. Elle avait ce dangereux mérite d'être toujours franche avec elle-même et de ne pas reculer devant les conséquences de ses actes. Elle valait mieux que les autres de son monde. C'est pourquoi elle faisait pis. Quand elle aima, quand elle conçut l'idée de l'adultère, elle s'y jeta à corps perdu, avec une franchise désespérée.